Chères audiences, bienvenue pour un nouvel épisode de Mythi Artist, cette fois-ci avec un groupe rock de Bilbienne, The Clive. Je suis ravi de pouvoir les accueillir et parler de leur parcours musical. Je suis ici présent avec deux membres du groupe, Julien et Bastien. Bienvenue et merci d'être présent ici chez Radio Tico.
Merci beaucoup.
Merci de l'invitation.
Bon, je commence avec The Clive, un nom peut-être connu par certaines personnes, peut-être pas trop par d'autres. Qui êtes-vous et comment vous vous êtes rencontrés en tant que groupe?
On est des copains d'enfance. On a tous grandi dans un village, un petit village qui s'appelle Corgémont, dans le Bernard Jura. On a fait du football ensemble et comme on était nuls, on a fait de la musique, ce qui était quand même un peu mieux. Et puis on a fait pas mal de concerts au début, puis encore d'autres concerts, et puis finalement un CD, deux CD, toujours des concerts. Et puis on est toujours à peu près la même équipe que les copains d'enfance avec qui on faisait du foot. Donc c'est une vraie histoire d'amitié, j'ai envie de dire.
C'est vrai. Et puis cette année, on a sorti deux nouveaux singles avec deux clips.
Exact. Ouais, je trouve que tu es très bien habillé aujourd'hui, Julien.
Mais venant de quelqu'un qui a mis un costume, je ne sais pas ce que c'est cette matière, mais...
C'est de l'alpaga.
C'est plutôt moi qui aurais dû le dire.
Merci, merci.
Les auditeurs ne voient pas, mais ils l'entendent sûrement d'une manière.
Bah, d'une façon ou d'autre, ils le voient peut-être sur Instagram, donc peut-être... C'est fait chic, c'est quand même bien. Donc du coup, je vous ai présenté au début comme un groupe rock. Est-ce que vous avez toujours été en groupe rock ou bien comment vous avez choisi votre genre de musique?
Ouais, je crois qu'on a toujours fait de la musique. Alors rock, je sais pas, on a fait de la musique fort parce qu'on était des jeunes délinquants et puis on voulait faire de la musique très fort.
Avec des guitares et des amplis.
Exact.
Et comme on écoutait beaucoup de rock, c'est vrai qu'on ne s'est jamais tellement posé la question. On a fait ça naturellement.
Et j'ai l'impression qu'à plus on joue, à moins on a envie de jouer. À moins on a envie de jouer fort en tout cas. Et du coup, ça, non pas qu'on s'assagisse, mais je pense qu'on évolue un peu dans la manière de voir la musique. On est un peu plus posé, je dirais, même si ça reste très énergétique.
C'est ça.
Et quand même fondamentalement assez rock, en fait. Mais comme on était cinq au départ, puis il y en a un qui a dû arrêter, comme on était quatre, à un moment donné, ça a changé la dynamique du groupe. Et puis forcément un peu la dynamique de composition. Et puis à force de faire des concerts, ça évolue forcément un peu. Ouais.
Et qu'est-ce qui a inspiré votre groupe à faire ce type de musique? Genre, je vois dans la musique, vous avez un peu des jeux de mots astucieux et une énergie très contagieuse.
Je pense que ça vient de la musique qu'on écoute depuis toujours. On a beaucoup de références partagées.
C'est quoi tes références, Julien, maintenant?
Les miennes?
Oui.
Maintenant?
Oui.
Oh, mais c'est plus très rock maintenant. Je pense pas que j'ose les dire à l'antenne et garder ma place dans le groupe. J'ai commencé à écouter des choses qui collent plus tellement avec ce qu'on fait avec The Clive, donc je vais m'abstenir.
Ah, moi j'adore Dua Lipa.
Ah, ouais, alors moi j'aime bien aussi, ouais.
Ok, mais c'est pas très rock, je suis d'accord. Quoique j'ai appris un truc, alors peut-être tu me corrigeras, c'est dit, mais la dernière chanson de Dua Lipa, qui s'appelle Houdini, c'est le membre principal d'un autre groupe qui l'a composé pour elle.
Ah oui.
C'est pas elle qui l'a fait. Et en fait, c'est un gars qui fait plutôt du rock, ou en tout cas plutôt de la musique électronique et rock. Et du coup, on pourrait faire de la musique pour Dua Lipa aussi, peut-être.
Bon, en même temps, c'est pas la première fois que c'est pas elle qui écrit pas ses morceaux ou qu'elle plagie ses morceaux. Donc c'est pas, ça n'étonne pas grand monde ici.
Ouais, c'est vrai. Mais je pense que dans les références, il y a Dua Lipa maintenant, forcément.
Mais à l'époque, c'était plutôt des choses comme du rock anglais, comme Oasis et des trucs comme ça, un peu de la Britpop.
Mm-hmm. Bon, du coup, comme vous avez dit que vous écoutez aussi des styles différents, que je pense beaucoup d'autres artistes font aussi, donc vous êtes inspiré aussi un peu de différents styles de musique.
Ouais. On va avoir pas mal de concerts ensemble aussi. On est allé l'été dernier, on était à Florence dans un festival. Alors, on a vu beaucoup de groupes live, là c'était en l'occurrence assez rock, mais on va aussi voir d'autres choses ensemble. On est assez curieux, donc on ne se limite pas vraiment à un genre. Et après, comme on est finalement trois musiciens dans le groupe et puis un chanteur, forcément qu'on a toujours un peu la formule qui revient. Et puis on aime bien être attaché à des choses qu'on connaît. Donc,
C'est vrai que ce qu'on compose finalement dans le groupe, même si on a des influences qui ne sont pas toujours très rock, ça reste quand même un domaine où On a envie de garder cette identité très rock aussi dans les nouvelles compositions qu'on écrit, où c'est, le but c'est quand même toujours de garder un peu l'énergie et puis cette puissance du rock. Peut-être que comme les Arctic Monkeys, dans un ou deux albums suivants, on va changer, on va se mettre à faire des choses.
Porter les pattes d'eff et puis...
mettre des lunettes trop grandes et arrêter de se laver les cheveux. Mais pour l'instant, c'est encore pas dans les plans.
Mais pourquoi pas,
Pourquoi pas.
Donc vous êtes ouvert à expérimenter avec d'autres styles aussi, ou bien vous voulez vraiment rester strictement...
Tout sauf du reggae.
tout ce qui contient une guitare à contretemps, ça va pas. Ça passe pas.
Et pourquoi ?
Je peux demander. Non, c'est une blague entre nous. À chaque fois qu'on écoute du reggae, on dit non mais la guitare elle joue toujours la même chose, et puis c'est une blague qu'on fait entre nous.
Mais quand même.
En termes de jouer un peu d'autres styles, ça on le fait. On a d'autres projets musicaux où on joue un peu des autres styles qui sont parfois un peu plus pop. Mm-hmm. On peut le mentionner, on a un groupe de reprises qui contient 75% du groupe de Clive. On a juste une autre chanteuse et on fait plein de reprises. On fait de la pop, on fait du Britney Spears et puis des trucs comme ça.
Du Dua Lipa bientôt.
Bientôt, et on devrait faire du
Dua Lipa. Oh, excellente idée, Sandy, bravo.
C'est une très bonne idée.
Vous avez débuté avec Two Wrongs Don't Make a Clive. Et comment décrivez-vous l'évolution de votre son depuis les débuts et jusqu'à votre dernier single ?
Mais pour te dire, la première fois qu'on a fait un album, on l'a fait avec Julien Fellman, qui est un gars super, qui produit des groupes. Et il est venu dans notre local et... J'avais un ampli où il y avait un bouton reverb dessus. Et puis, je n'avais jamais touché ce bouton parce que la reverb, c'était pour les autres. Puis, quand il est arrivé dans le local, il a mis la reverb à fond, le volume moins fort, joue plus comme ça, etc. Et en fait, c'était le début d'une évolution qui est toujours, je pense, en cours. En tout cas, comme je te disais, on cherche à jouer un peu moins, pas moins énergétique, mais juste un peu moins tout le temps. Et puis ça évolue dans le son, ça évolue dans les compositions qui sont aussi un peu plus brutes peut-être. Et puis on verra, maintenant on est en train de réécrire des nouvelles chansons pour un album, donc on verra comment on arrive à prendre tout ce bagage maintenant pour la suite.
Hein. Entre le premier et le deuxième album, on avait déjà un petit peu changé notre manière d'écrire, ça restait un peu la même essence, mais déjà on avait à la base deux guitares, ensuite on en avait qu'une, donc... Dans toute l'écriture de l'album, c'était un petit peu différent. C'était un peu plus aéré. Il y avait un peu plus de place. Et maintenant, sur le troisième album, on essaye de le composer avec vraiment une identité beaucoup plus claire que sur les deux premiers albums. C'est un peu le but qu'on a, c'est qu'on écrive vraiment une douzaine de morceaux qui sont reconnaissables comme faisant partie de la même identité d'album. Mm-hmm. Et c'est un peu le challenge qu'on s'est imposé pour le troisième album. Et on est en plein dedans pour l'instant.
On viendra vous en parler quand il sera prêt.
J'attends. Et du coup, vous avez parlé d'identité. Je vois, il y a Bastien qui a une moustache. Julien, c'est aussi une partie de l'identité.
C'est la moustache. Moustache,
ouais. La moustache.
Ouais. Moustache obligatoire. Ouais.
C'est vrai que c'est moustache obligatoire dans le groupe, sauf pour le batteur qui n'arrive pas à la faire pousser.
Mais là, c'est plutôt parce qu'il ne veut pas ou c'est un problème.
Non, c'est physique. Ouais.
C'est génétique. Ouais. On a essayé de lui en coller une, comme ça, mais elle tombait tout le temps, donc on a abandonné.
Du coup, moi, j'ai une moustache. Hein, donc
tu peux venir.
Ah ouais.
Je peux intégrer le groupe.
Si tu fais de la batterie, tu es le bienvenu.
Dommage, non, moi, je joue au violoncelle, mais ce n'est pas la même chose.
Ah, ouais. Okay.
Quelle est la dynamique de création au sein du groupe lorsqu'il s'agit de composer une nouvelle chanson, un nouveau morceau?
Alors, on avait toujours un peu la dynamique un peu classique, je crois, de quelqu'un amène une chanson et puis ou une base de chansons, à peu près, on travaille dessus. Et là, on a dit, on fait l'inverse. Il n'y a personne qui fait ses devoirs. Et puis, on se retrouve, on répète dans notre local, puis on jam un peu comme ça. Et puis, on enregistre tout maintenant. Et puis après, on coupe un bout, on met au début, etc.
Quand on remarque que dans la jam, il y a un truc cool qui se passe, on dit stop. Et on essaie de rejouer ce qui était cool. Puis après, on construit un peu autour de ça le reste du morceau. Mm-hmm. Et c'est une technique d'écriture qu'on a un peu récemment ajoutée pour justement l'écriture du nouvel album.
Je me demandais si ça venait pas du, des jams qu'on fait en live aussi.
Ouais, c'est vrai, il y a deux ans, trois ans, on a commencé à ajouter dans tous nos sets live au milieu une partie où on dit c'est pas préparé et c'est improvisation. Puis on regarde ce qui se passe.
Ouais, parce que, ah, c'est vrai, ouais. Peut-être c'est ça en fait. Parce qu'on on fait toujours des concerts un peu timés comme ça, où on sait que ça dure entre 44 et 47 ou entre 1 heure et 1 heure 2, parce que c'est toujours les mêmes chansons, on essaie de faire les transitions propres, etc. Et un jour, je crois que c'est Malik, notre chanteur, qui a dit mais je pourrais faire une jam, un truc un peu où on ne sait pas trop où on va, un peu organique, pas très long, mais. Et puis au début, on a fait ça, puis après, on a dit ouais, c'est toujours les mêmes accords, alors on fait un peu autre chose. Et puis maintenant, on se regarde, puis celui qui veut commencer, il commence. Et je crois que ça nous a tellement plu. Et puis, ça a l'air aussi un peu de plaire au public quand même. On s'est dit que c'était peut-être aussi une manière de faire un album.
C'est une manière intéressante. En fait, ça fait tellement longtemps qu'on joue ensemble. Avec Bastien, ça fait, je sais pas, 15 ans qu'on joue ensemble. Avec notre batteur, ça fait bientôt 10 ans. Donc, c'est un peu une manière de garder les choses fraîches. On sait qu'on sait jouer ensemble. Quand on sait tous ce qu'on doit faire, mais quand personne ne sait ce que l'autre fait, bah ça crée un challenge supplémentaire et puis ça ajoute un peu une nouvelle dimension à l'écriture.
Ouais, c'est vrai.
Donc du coup, de ce que j'entends, vous aimez bien des challenges où vous n'écrivez pas d'abord le texte avant de passer à la mélodie
Pas du tout, non. Là, c'est quelque chose qu'on a peut-être fait par le passé, mais maintenant. Comme on a quand même un style de rock qui est très orienté riff et il y a toujours un riff ou un thème dans chaque morceau, c'est un peu quelque chose qu'on trouve le mieux. Nous, on a découvert ça du coup en jamant.
Ouais, c'est vrai.
Ça marche bien. On verra si ça marche pour tout l'album ou si c'est le début qu'on fait comme ça. On se met pas tellement de règles. On suit un petit peu le flow.
Du coup, je vais vous dire si ça marche. J'attends l'album.
Avec plaisir, ouais.
Passons à votre dernier single, Renegades. Une chanson qui fait vraiment bouger. Pouvez-vous parler un peu du processus de la création de ce dernier single et qu'est-ce qui rend le single spécial à vos yeux?
C'est une chanson qu'on aime, qui est née en répète, comme on disait. Et en fait, je crois qu'on en a découvert un peu son potentiel en live. Parce qu'on l'a testé en live avant de l'enregistrer.
Et relativement longtemps, ça fait, je pense, déjà plus d'une année qu'on la joue, cette chanson.
Ah oui, c'est vrai. Et en fait, elle marche bien en live, elle a une bonne énergie. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on va enregistrer cette chanson? Parce que, est-ce qu'elle est bien produite? Est-ce qu'elle est un peu lisse? Ou est-ce qu'on l'enregistre un peu en live, quoi? Et puis, on a pris un peu cette décision de l'enregistrer assez brute. La base, en tout cas, après... On l'a mixé et compagnie, mais en tout cas, on a essayé de garder cette énergie du live qui nous plaisait bien.
C'est une prise live à 90% la version du morceau.
Yeah. Ouais. Je trouve qu'on l'entend d'ailleurs. Hein. Ouais. Il y a une chaise qui crépite.
Bon, du coup, vous avez dit live, qui dit musicien, dit aussi performance live. Et je pense qu'aux yeux, peut-être des gens qui sont là pour venir vous écouter, ça semble peut-être souvent facile, mais ce n'est pas. Donc, comment vous gérez l'équilibre entre les performances live énergétiques et aussi la préservation de la qualité de la musique?
C'est une bonne question. On a fait une fois, enfin plusieurs fois, mais en l'occurrence, je pense à celle-ci, une prise live enregistrée et filmée un vendredi à 10h le matin. Et la question était... Est-ce que tu joues avec de l'énergie, mais forcément pas toujours 100% juste, mais c'est cool à l'image et puis c'est super. Ou alors les gens qui écoutent, ils veulent entendre une prestation parfaite.
C'était à la radio en plus.
C'était à la radio, ouais. Et s'ils veulent une prestation parfaite, et du coup tu bouges un peu moins, et puis tu te dis ok, la musique est cool, mais ils bougent pas.
Ils sont concentrés sur leur instrument comme ça.
Et je crois qu'on avait opté pour aucune des deux, puis voir un peu, un peu qu'est-ce qui pouvait se passer. Mais c'est toujours une vraie question, quand tu joues au début, tu te dis ouais, c'est trop cool, on a fait le meilleur concert, trop bien, t'as donné toute ton énergie. Après, au début, tu entends sur un téléphone de quelqu'un qui a filmé, puis tu dis « Oula !»
On était tous à côté.
Tu n'es pas tout à fait dessus, les doubles voix ne sont pas tout à fait OK. Et c'est quelque chose qu'on a fait. Alors, tu t'entends jouer, enfin, c'est le pire truc. Quoi. C'est comme à la radio, si tu réécoutes, tu te dis « Ah, pourquoi j'ai dit ça ?» C'est un peu la même chose avec la musique. Et, quand tu le fais une, deux, trois, quatre, 15 fois, au bout d'un moment, tu te dis « OK, ça marche, ça c'est ma limite de ce que je sais faire. » Alors peut-être tu vas prendre un cours de chant ou tu travailles un peu l'accordage d'une guitare. Ou bien tu dis au batteur d'aller apprendre comment.
Mais c'est vrai qu'avec les années, ça va quand même de mieux en mieux. Enfin,
j'espère.
On a quand même un niveau de progression parce que ça fait quand même un certain temps qu'on joue ensemble. Le live, ça devient gentiment de plus en plus proche du studio, heureusement.
Ouais.
Tout ce qui était un peu bancal il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est juste partiellement bancal.
Ben, je me souviens, on parlait de Julien Fellmann, donc pas Julien lui, mais l'autre. Julien,
le producteur des deux premiers albums.
Qui n'a pas de moustache, sauf erreur. Pas encore de moustache. Et il nous avait dit, ouais, je me souviens qu'un jour, on avait fait un concert, un bon concert qui nous paraissait bien, puis il a dit, écoutez, si vous voulez jouer mieux, plus, il faut arrêter de faire des fautes, quoi. Enfin, vous ne pouvez plus faire, tu sais, 3-4 fautes par concert, 3-4-5 fautes, un truc où tu dis, ah, je me suis trompé d'accord, ou ah, machin. En fait, il dit, mais vous ne pouvez plus. Mais il nous a dit ça il y a, je sais pas, 8 ans, tu vois. Et depuis, on s'est dit, maintenant, on sort de concert, puis des fois, il y en a un qui dit, mais c'était pas possible, je me suis trompé d'un accord, tu vois. Alors.
C'est vrai que on tolère beaucoup moins les erreurs qu'au début. On est devenu un peu plus perfectionniste avec les années où on s'impose nous-mêmes un standard de qualité un peu plus supérieur. Ça marche pas toujours, mais ça marche souvent.
Et vous ne pensez pas que souvent les erreurs ramènent aussi parfois un côté authentique? Bien sûr que les gens veulent écouter quelque chose.
La question mérite d'être posée parce qu'on nous a dit récemment après un de nos concerts, c'est bien, mais c'était un peu trop propre. Enfin, il n'y avait rien. C'est comme si on voulait jouer pour la radio. Ça manquait un peu d'âme. C'est une critique qu'on nous a fait récemment. Est-ce qu'elle est justifiée, tu penses, Bastien?
Je pense qu'elle est complètement injustifiée. Non, c'est possible. Ça se traduit par... Tu peux jouer juste, puis un peu différemment du CD. Peut-être les gens, ils aiment ça aussi. Je sais pas, mais si tu vas voir un grand artiste, puis tout d'un coup, il y a une basse qui marche plus ou une guitare qui marche plus, ça peut aussi être cool. Parce que tu dis, je suis en train de vivre ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça?
Ouais.
Et pourquoi pas, nous... Je crois qu'on est, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on est plus à l'aise sur la scène, qu'on joue mieux, tant mieux, ça c'est super, mais on est plus, on se sent un peu plus à notre place sur une scène, du coup, après s'il y a des pains, des erreurs, ça c'est...
C'est aussi une stratégie, une volonté un peu artistique de décider qu'est-ce que tu veux faire comme set. Est-ce que tu veux un peu improviser du début à la fin, ou est-ce que tu veux vraiment que tout soit bien ficelé? Et nous, ça fait quelques années qu'on travaille justement pour aller plutôt dans la direction de notre set, de A à Z. Il est clair, à part le moment jam au milieu, les transitions, on sait combien de temps ça dure, on sait qui joue quoi, qui fait quoi. Et du coup, c'est un peu notre volonté aussi d'avoir un show qui est... Il est comme ça, et puis il est comme ça à chaque fois.
Ouais, c'est vrai. Et puis on adapte un petit peu en fonction du public. Si tu sens qu'ils ont besoin d'un peu plus de choses ou un peu moins de réactions, tu peux adapter aussi en live. Mais je crois que les transitions, c'est le truc qui nous a le plus... Enfin, quand tu es un jeune groupe et que tu commences, les transitions, c'est le truc qui terrifie le plus. Tu finis ta chanson, le public applaudit ou pas. Puis après,
il y a un moment de silence.
Tu sais, les 15 secondes qui paraissent 30 minutes où en fait, il ne se passe rien. Il y en a un qui s'accorde, puis « Ah merde, c'est à moi de commencer. »
Il y en a qui se regardent. « Ah, c'est quoi le morceau suivant ?»
En fait, au début, c'est rigolo. Après, il y a quelqu'un qui te dit que c'est insupportable puis que tu ne peux plus faire ça. Alors, tu ne le fais plus. Puis après, tu ne vois que ça chez les autres. Alors, des fois, ça peut être cool de laisser un peu de temps. C'est pas... faut pas que tout soit timé à l'américaine, mais... Que savoir qui prend quoi et comment, et avoir une setlist, et puis savoir comment ça fonctionne, c'est quand même vachement...
Mettre un peu d'ordre là-dedans, ouais.
Et du coup, ce placement, genre, comme vous avez dit, vous arrangez vos concerts de A à Z et tout, est-ce que vous mettez aussi ça dans la musique? Vous essayez aussi un peu de jouer un à un, c'est qu'on écoute genre dans l'enregistrement original, ou bien vous faites des arrangements différents aussi pendant que vous jouez?
C'est une bonne question.
On a quelques arrangements live, surtout pour des morceaux un peu plus vieux qu'on a retravaillés par la suite. Mais en général, une fois que... Enfin, on joue toujours la même chose. D'un concert à l'autre, chaque morceau sera le même.
C'est vrai qu'on en a arrangé pour le live. Tu coupes des couplets parce qu'ils sont trop longs. Tu fais juste qu'une partie où tu changes l'intro. Des fois, tu as un solo de guitare. Tu dis, ouais, mais j'ai plus envie de faire ce solo de guitare. Tu fais juste une note. Et puis, les gens, ils se souviennent que de ça. Et
On rajoute des solos de batterie un peu au milieu quand même, parce qu'un solo de batterie dans un concert de rock, c'est obligatoire.
C'est un peu cliché, mais c'est super.
Non, je pense qu'on a beaucoup de liberté dans le concert quand même. Et puis, on aime bien avoir un peu...
Et puis quand même, chaque année, on retouche un peu notre set. On aime bien, une fois de temps en temps, avant une tournée où on sait qu'on a en tout cas 5-6 concerts qui viennent, on se met ensemble, on dit « Ok ». On en a marre de jouer les morceaux dans cet ordre-là, de jouer ça. Mmh. Puis maintenant qu'on a quand même beaucoup de morceaux, on peut aussi se permettre de reprendre des anciens morceaux, de les rajouter, de changer l'ordre, de changer un peu les transitions, tout ça. Donc c'est aussi quelque chose qu'on fait régulièrement pour un peu garder les choses fraîches, pour pas qu'on s'ennuie de jouer les mêmes morceaux.
Avec tout ce qu'on a dit, et aussi vous avez parlé au début de votre album que vous êtes en train de travailler dessus. Quelles sont vos aspirations pour l'avenir en termes de croissance musicale et de la façon dont vous souhaitez impacter votre public ?
Moi, j'aimerais bien jouer plus en Suisse allemande.
C'est vrai.
Parce qu'on a un peu le Rüchtigraben quand même. En fait, je pense qu'il y a une chose qui nous rend un peu triste en tant que groupe, c'est qu'on est biennois, mais on ne joue pas beaucoup à Bienne. Parce que pour les biennois, on vient du Berner Jura. Puis pour le Berner Jura, on vient de Bienne. Du coup, en fait, on joue... Tu sais, t'as pas la facilité... Tu prends les Rambling Wheels, qui était un peu une aspiration pour nous au départ.
Un grand groupe de Neuchâtel, un des plus grands groupes romands de rock ces dernières années.
Ils sont neuchâtelois, tu vois. Alors, ils jouent à la Casa Choc. Tu prends... Je sais pas si Death by Chocolate. Ils sont un peu plus biennois que nous, même si c'est pas vraiment des biennois, je crois.
Ouais, c'est vrai.
Ils sont un peu... Je dis pas que c'est plus simple pour eux, mais ils ont au moins un peu un hometown comme ça où tu peux jouer, tu sais. Il y a toujours du public qui est là. Tout le monde sait que tu viens du coin. Nous, on va à la radio à Bienne, on dit « Ah, je vous connais pas trop. Vous venez plutôt du Jura-Bernois. » Puis tu vas à la radio du Jura-Bernois, puis ils disent « Ah, les Biennois de Clay. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes encore de la région ?» Tu vois.
Ouais, c'est un peu ça.
Et en fait, bah, ce serait plus cool d'être complètement de Fribourg, tu vois. Et puis, OK, tu joues à Fribourg... à la fête de la musique, et puis à Fribourg, à, je sais pas, au Frisson, tu vois. Tu as des salles cool où tu vas tout le temps parce que tu es un peu le...
C'est vrai qu'on a du mal. On a du mal à trouver des dates un peu dans la région. Étonnamment, on joue beaucoup en Valais, on joue beaucoup vers Lausanne, Nyon, Fribourg. On a vraiment pas mal de concerts là-bas, mais très peu dans la région.
Ouais.
Et c'est quelque chose qu'on essaye de résoudre un peu parce qu'il y a la région, mais il y a aussi le côté suisse-allemand qu'on a pour l'instant très peu touché.
On avait un label suisse-allemand avant, on a joué à Bâle, Zurich, Saint-Gall et compagnie, mais depuis qu'on n'est plus, on a changé, on a moins de concerts. Pour te dire, on n'a jamais joué à Lys, tu vois, on n'a jamais joué, vous avez une super salle de Cécile. Là.
Tu en as joué à la Koufa il y a une fois, il y a, je pense, 13 ans.
Il y a 13 ans, tu vois. C'est vrai, je sais pas, là, quand même, on est des jeunes trentenaires, tu peux quand même jouer encore. Et en fait, moi, j'aimerais bien, je kifferais vraiment jouer à la Koufa et puis à jouer dans les salles de la région. On est allé à Rao ensemble,
ouais.
Voir
au
Kif de Overphonic. C'est incroyable, cette salle.
La salle est cool.
Ouais. Elle est trop bien, tu vois. Puis il y a plein de salles comme ça dans les villes alentours et on n'y va pas beaucoup parce que, comme dit Julien, on va jouer à Sierre, Lausanne, Genève, Fribourg, c'est super, mais on est quand même biennois à la base, donc on aimerait bien un peu plus jouer ici, ouais.
On a le Rüchtigraben, on le sent.
Tu vois, on te force à faire une interview en français.
Non, en fait, vous m'avez pas forcé en tant que tel, mais...
On aurait pu le faire en allemand, on en a fait quelques-unes dans le passé. On se débrouille un peu.
Ouais, ouais.
On improvise.
On parle moins.
On parle un peu moins en allemand, c'est vrai.
Et du coup, j'ai entendu, vous avez dit, ouais, vous aimeriez aussi un peu plus jouer à Bienne, et vous avez cité des différents endroits où vous étiez parti. Est-ce que c'est aussi un goal... jouer hors du pays, ou est-ce que vous avez même déjà joué hors du pays?
On a joué en France quelques fois, ouais.
Il y a longtemps.
Je pense qu'on aimerait bien jouer en Angleterre quand même, hein. Ça serait assez cool d'aller.
Mais après, c'est un goal, oui, mais disons que avant de sortir du pays, ça serait déjà bien de jouer dans tout le pays. Ça serait déjà plus réaliste. Je pense que si on a un troisième album qui sort et puis qui est un peu mieux construit et qu'on arrive un peu à encore professionnaliser le projet un peu plus. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut atteindre. Il faudra trouver les bons partenaires aussi du côté suisse-alémanique. Et puis,
complètement, ouais.
Avec,
mais un petit concert en Angleterre, ça serait quand même cool.
Ah, mais si on va en Angleterre, on fait une tournée, on prend un bus un concert, et puis on va jouer dans les pubs.
Mais tu vois, tu joues en Suisse, t'es hyper bien. Tu gagnes bien ta vie. Enfin, tu gagnes un peu d'argent en tant que gros groupe qui ne gagne pas sa vie avec ça, disons plutôt comme ça. Tu gagnes un peu d'argent de poche, t'es bien reçu, les gens sont sympas, les scènes sont cool, les techniciens sont cool. Tu vas jouer à Festineuch, t'as le lac dans la... juste devant toi, tu vois, c'est super. Si tu vas en Angleterre ou n'importe où en Allemagne, bah, t'es forcément un peu moins bien reçu parce qu'il y a beaucoup plus de groupes. T'es un Suisse en Angleterre, tu vois, donc c'est un peu différent, quoi, mais...
C'est plus à la punk, mais c'est cool aussi.
Mais ce serait bien, ouais.
Non, non. Après, c'est pour l'expérience, hein, si on fait des choses comme ça. On...
C'est un peu embourgeoisé, tu vois.
Ouais. Tu dis ça avec ton costume alpaca, ouais, franchement, en Angleterre...
Je crois que je me suis un peu embourgeoisé en disant ça. Ouais.
Dormir un peu sur des lits qui sont trop durs, moi, j'aime pas trop...
Non, c'est fish and chips, ça, c'est quand même un peu gras, quoi.
Bon... Quand moi je pense à des lives, par exemple, je pense aussi également à vos vidéos musique iconiques, amusantes. Donc, comment et pourquoi vous utilisez cet humour qu'on voit dans vos vidéos et dans votre musique aussi quand on écoute le texte?
Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est jamais quelque chose qu'on a spécialement réfléchi. Je pense que ça vient aussi de pas mal d'influences qui faisaient ça, qui mélangeaient souvent le rock à l'humour. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'était Jack Black de Tenacious D qui disait que pour lui, un des ingrédients essentiels de la musique rock, c'était qu'il y ait une touche d'humour, d'autodérision, qu'il ne fallait jamais trop se prendre au sérieux. Et que je pense que c'est quelque chose qu'on fait sans y réfléchir.
Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. On met toujours de l'humour un peu partout. On témoigne des interviews qu'on fait un peu partout, les concerts qu'on fait. Enfin, tout, on essaie toujours d'avoir cette touche d'autodérision aussi pour pas trop se prendre au sérieux et puis ça donne des vidéoclips un peu rigolos.
Ouais,
j'espère.
En tout cas, nous, ils nous font rire, donc c'est tout ce qui compte. À la base, on les fait surtout pour nous, hein. Surtout le clip qu'on est allé faire, le clip de Turn It Up qui est sorti au mois d'avril ou en début d'année. On l'a tourné, on l'a fait avant tout pour que ça nous fasse plaisir. On a fait un week-end avec une équipe de tournage de copains. Et puis, on s'est vraiment marré pendant 3 jours. Mm-hmm. Après que le clip... en général, ça fait plaisir aux gens si toi, t'as plaisir à le faire. C'est un petit peu, c'est un petit peu la logique.
Et donc, aujourd'hui, dans un monde que je dirais qu'on écoute beaucoup du pop et d'hip-hop, vous pensez qu'il y a encore, de l'espoir pour le rock? Parce que, en fait, il y a des gens qui écoutent le rock comme moi, j'écoute, mais genre... Comparé à d'autres styles de musique, comme j'ai dit, le pop et le hip-hop sont un peu plus moins...
C'est pas trop à la mode, hein, le rock ces dernières années.
Non, c'est pas très à la mode, mais je sais pas, quand on fait des concerts à Tour du Monde, à notre échelle, ça... Je dirais que l'impact, il est...
C'est vrai que dans la musique live, en Suisse, il y a quand même toujours beaucoup de rock. À la radio, peut-être moins, mais en musique live, il y a passablement de groupes de rock, parce qu'il y a toujours cet aspect... assez théâtral dans le rock qui fait que c'est intéressant à regarder. Même si à la radio, souvent on aime des choses un peu plus produites maintenant, un peu plus parfaites, léchées, choses qu'on ne trouve pas forcément dans le rock qui est produit. Peut-être que c'est surtout cet aspect live qui fait survivre l'intérêt chez les gens.
Ouais. Ouais, puis comme on en vit, on ne vit pas de la musique, tu vois, c'est vraiment un hobby, un super hobby. Mais... En fait, on ne conscientise pas trop que tu gagnes pas trop d'argent. Puis que, c'est un peu égal pour nous, parce que tu... Comme si tu fais du foot à Studen en 5e ligue, tu vois. Tu sais que tu ne vas jamais jouer en Champions League, quoi. Alors,
le but, ce n'est pas le succès. Le but, c'est de s'amuser et puis de produire quelque chose qui te plaît.
Exact. Ouais. Mais oui, alors c'est clair que tu as moins d'écoute. C'est un peu moins populaire. Mais peut-être c'est même encore plus sympa quand les gens ils te voient. Puis ils se disent « Ah, mais je n'ai jamais vu ça ». J'ai jamais vu un groupe avec une énergie comme ça, jouer live, etc. Parce que, justement, comme tu dis, t'es noyé un peu dans la pop, et puis dans le rap, et dans le hip-hop. Mais c'est très cool. Moi, je trouve que la musique qui sort aujourd'hui, elle est super qualitative. Donc, ça me dérange pas du tout.
Bien sûr.
Surtout que Dua Lipa.
Bon, du coup, il y a quel conseil que vous pouvez donner aux jeunes musiciens qui aspirent à une carrière dans l'industrie musique rock ou n'importe quel autre style de musique?
Une carrière. Il n'y a pas de carrière musicale en Suisse. On ne peut pas vivre la musique en Suisse. C'est un mythe. à part si on s'appelle Stress ou si on s'appelle...
Bastien Baker.
Ou Stefan Eicher.
Tu peux vivre de la musique, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille. Enfin, en tout cas, de nous, ce qu'on voit, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de promesses quand tu commences. Il y a un peu de déception quand tu remarques que les plus grands concerts, ce n'est pas forcément les meilleurs concerts. Et puis que les concerts les moins bien payés, des fois, c'est les mieux, etc. Enfin, tu mélanges des fois un peu tout. Un bon conseil pour commencer, moi, je dirais, c'est de faire un maximum, de produire un maximum, d'essayer, d'enregistrer beaucoup, de se tester, de faire de la scène. Parce qu'en fait, quand tu fais du live, tu ne peux pas tricher. Tu peux toujours tricher quand tu fais du home studio, t'enregistres plein de couches, etc. Tu changes ta voix, tu fais comme tu veux. T'as une super instru, puis tout d'un coup, tu vas sur scène. Et puis, tu vois, soit ça marche pas, soit techniquement, t'arrives pas à le reproduire.
Ouais, et puis, il faut se dire aujourd'hui,
t'es pas assez bon.
C'est, la musique enregistrée, c'est pas de là que les gens se font l'argent de poche. C'est pas avec ça que tu finances tes projets. Les projets, ils se financent avec les concerts. Donc, l'industrie, elle a un petit peu changé. Où maintenant la production de musique, elle sert à promouvoir les concerts et les tournées. C'est assez centré autour du live. Nous, surtout, nous, on est un groupe live. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont une expérience où ils veulent juste produire dans leur chambre. Après, il faut juste être conscient que c'est un domaine où il n'y a pas beaucoup d'argent. Et il faut pas avoir le succès comme but principal, le succès ou l'argent.
Non, il faut aimer ce que tu fais. Puis vraiment, moi, je produirais à fond, quoi. Tu produis, tu commences par faire 6 albums avant d'en sortir un. Puis tu t'écris, enfin, c'est vraiment un exercice comme apprendre à dessiner ou peindre ou à cuisiner ou à faire des corners pour le football club Studen, tu vois.
C'est vrai.
Donc,
ils ont d'ailleurs des très, très bons tireurs de corners à Studen. Je sais pas si t'as vu.
J'ai vu, ouais. Ils sont pas en 5e ligue, d'ailleurs. Ils sont plutôt...
C'est vrai?
Ouais.
Pardon.
Non, je dis 5e ligue, mais c'est plutôt 2e ligue inter, voire Champions League.
Et du coup, vous pouvez nous donner un peu un aperçu à quoi ressemble une journée typique pour The Clive.
Je peux te donner la journée type du dernier concert qu'on a fait, qui était un super concert. On se lève très tôt.
Aux alentours de 11h.
Aux alentours de 11h le matin. On va récupérer notre matériel, on s'installe, on est toujours bien reçu. On fait un soundcheck très rapide et après, on boit un coup de blanc. Assez vite, on boit un verre de vin blanc.
C'est pour avoir le courage ou bien parce que je vois.
Non, c'est parce qu'on est tous alcooliques.
C'est parce qu'on joue en Valais et puis que...
On n'a pas le choix en Valais.
Et puis on n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu rencontres plein de gens intéressants. Ça, c'est un truc... Je crois que c'est... On n'a pas vraiment de journée type, mais quand on fait des concerts, je pense que c'est le point commun. Tu rencontres des gens intéressants. Des gens nouveaux, des autres groupes.
Des gens qui partagent un peu les mêmes intérêts. Donc
ouais, c'est des gens, c'est des trucs incroyables. On avait joué, comme, je sais plus comment il s'appelle ce festival au bord de l'eau, à côté de Mora. Festichère, c'est possible.
Ah ouais.
Festichère.
Ouais, c'est juste.
Super festival, incroyable. Et on a rencontré le groupe qui s'appelle The Sons, je sais pas si tu te souviens, c'est une espèce de Belge super. Et en fait, ils étaient là en backstage, ils mangeaient des crustacés, puis ils buvaient du vin blanc. Et puis on a discuté un peu avec eux, et en fait, eux, ils vivent de la musique, ils prennent ça très au sérieux. Nous, on était un peu plus détachés, très sympas, très rigolos. Et en fait, ils étaient adorables, vraiment gentils. Ils ont dit, mais si vous voulez venir voir des concerts, vous nous écrivez, etc. Et en fait, ça, c'est un truc que tu rencontres quand tu fais de la musique. C'est assez cool. Tu côtoies des autres groupes. Tout d'un coup, t'as un gars qui est là, un peu connu. Tout le monde est content de le voir. Ou alors un gars pas du tout connu, mais qui est hyper sympa.
C'est vrai qu'il y a un aspect communautaire qui est assez cool.
À fond. Donc voilà, c'est ça notre journée type. Voilà.
Et donc, en tant que musicien, vous aimez plutôt passer votre temps avec d'autres musiciens ou bien...
Que des musiciens.
C'est comment pour des musiciens, genre, d'être entre musiciens, genre, comme on voit souvent, genre, je sais pas, sur les réseaux sociaux, y a Nicki Minaj qui est avec Cardi B.
Est-ce qu'on a des copains musiciens? Oui, tu rencontres forcément des gens... Moi, je trouve que c'est des gens inspirants, ceux qui font de la musique, mais on n'en est pas que avec des...
Sauf ceux qui font du reggae.
le reggae.
Sauf les gens qui font du reggae. Je trouve que tu traînes dans des cercles où il y a des fois des artistes, mais il n'y a pas que des musiciens, t'as des peintres, t'as des gens
qui font de la poterie aussi.
Ils font de la poterie, par exemple. Tu peux des gens qui font du tir à l'arc ou des choses un peu particulières. Et puis des gens intéressants tout court. Mais on a rencontré je pense que quand on fait des soupers avec les techniciens son qui nous suivent, c'est les gens les plus rigolos du monde, tu vois.
C'est vrai.
Donc, en fait, des fois, les gens, c'est même pas les musiciens, c'est les gens qui permettent au spectacle d'exister.
C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui participent un peu à cette communauté, pas en faisant de la musique, mais juste en étant bénévole, en étant technicien.
C'est toujours eux qui ont les meilleures histoires à raconter.
C'est vrai.
Celui qui conduit le camion, il a beaucoup plus d'histoires que, que Carl DB, tu vois, par exemple.
Et donc, du coup, pour arrondir tout ça, je vais dire, quand est votre prochain live ?
C'est en mars, aux Hivernales de Nyon.
Ah oui, c'est juste.
C'est à Nyon. Et puis le prochain, je crois que c'est en mai, le Pop Rock Festival dans la région de Lausanne. Pour l'instant, dans la région, ici, on n'a rien de prévu ces prochains temps. Mais il y a des dates qui se rajoutent régulièrement sur notre site internet et sur nos réseaux.
Exact. Allez suivre Instagram de Clive Music.
Music.
Exactement.
Ah, merci.
Et du coup, moi, entre-temps, en attendant le concert, je vais essayer de créer une communauté fan autour de Berne, parce que vraiment, vous voulez
bien,
parce que c'est très important.
C'est très sympa. D'ailleurs, si tu veux donner des CD, on en a pris quelques-uns avec. Tu en fais ce que tu veux. On te les donne, ils sont là. On a deux premiers albums et deux fois le deuxième album. Je sais que les CD de nos jours, c'est plus quelque chose...
Ah, pour moi, c'est... Hein. Moi, je marche encore avec mon...
Tu marches encore au CD
le Walkman.
Ah ouais.
Ouais, j'aime bien.
Ah ouais, mais c'est cool.
Ah, c'est génial. Ouais, le CD, super.
Ça se perd un peu, mais nous, on aime bien produire encore des CD. Comme ça, on a quelque chose à donner. Mm-hmm. Alors voilà,
Merci beaucoup à vous.
Tu veux les faire, les offrir, les faire gagner ou les garder pour toi, la décision est tienne.
Bah, moi, je suis un peu selfish, je la garde pour moi. J'aime pas partager.
Exactement comme nous.
Comme nous, ouais. Voilà.
Bon, du coup, vous avez un dernier mot à dire ?
Vive Lys, merci la 5e ligue de Studen.
Et merci Radio Chico.
Merci Radio Chico, merci à toi.
Et pour avoir pris le temps de d'écrire toutes ces super questions.
Bon, du coup, chère audience, c'était le groupe Tech Live, ici sur Radio Tico, dans l'émission Mythi Artist. Comme dernier mot, moi, je dirais, n'écoutez pas le reggae. Voilà.
Je pense que c'est une bonne...
C'est une bonne fin.
Voilà, c'est une bonne fin. Bon, du coup, Julien et Bastien, je vous remercie infiniment d'être venus.
Merci beaucoup à toi.
Je vous souhaite tout le meilleur pour vos prochains projets.
C'est très gentil. Merci beaucoup.